Fréquence Mistral.
Salut à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. On a le plaisir de voir passer dans les studios de Fréquence Mistral Marseille toutes celles et ceux qui font vivre la culture. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le festival Jazz des 5 continents. C'est la 26e édition de ce festival qui se déroule du 1er au 12 juillet 2026 dans des lieux magnifiques de Marseille, par exemple la Friche de la Belle de Mai, le Conservatoire Pierre Barbizet, la Vieille Charité, le Parc Longchamp et une surprise cette année, mais on va en discuter tout de suite avec le directeur de ce festival, Hugues Kieffer, qui est dans nos studios. Bonjour Hugues.
Bonjour.
Comment vas-tu déjà ?
Très bien, on est en pleine préparation de notre édition 2026, donc on est tous mobilisés. Ouais. Ce matin, j'étais encore à visiter avec les associations particulières sur le handicap pour l'accessibilité de notre nouveau site. Et donc on est au travail, sur le terrain, il fait beau, donc tout va bien.
Ah ben ça, on en profite aussi ici au studio de Fréquence Mistral Marseille. Avant de parler de ces lieux, est-ce que toi tu peux présenter avec tes mots, parce que je suis toujours très sommaire dans ma présentation, est-ce que tu peux présenter ce festival historique, hein, puisque c'est la 26e édition, le festival des jazz des 5 continents?
Le festival Jazz des 5 continents est né en 2000, mm-hmm. donc c'est facile pour compter, hein, 26e édition 2026, ça nous arrange. Mm-hmm. Et dans le parc du Palais Longchamp à Marseille, qui est un lieu emblématique, avec cette idée d'amener à Marseille ce qui se fait de mieux du jazz de la planète. Et parce qu'à l'époque, à Marseille, on n'avait pas l'occasion de voir passer les grands noms du jazz, où ils passaient un petit peu, il fallait aller sur la Côte d'Azur pour aller voir ces artistes. Donc une poignée de passionnés se sont rassemblés pour vraiment créer ce festival, et ils étaient passionnés à la fois par le jazz mais aussi par cette idée et cette caractéristique de Marseille qui est ville-monde. Mmh. Et donc ils ont associé les deux, le jazz et des 5 continents, et c'était un peu visionnaire à l'époque, puisque le jazz et les musiques du monde étaient dans des bacs séparés dans les magasins de disques. Mais depuis, la fusion s'est faite, et à travers ces 26 années, on a vécu une aventure incroyable de rencontres, de partage des musiques, des répertoires, des sonorités, et les artistes qui ont circulé partout. Et nous, maintenant, depuis 26 ans, au mois de juillet, alors c'est plus au Palais Longchamp, mais c'est toujours dans des sites très beaux et très emblématiques de la ville de Marseille, on présente ce qui se fait de mieux dans le jazz des 5 continents, ici à Marseille.
Ben oui, c'est vrai que alors, le jazz, hein, c'est un genre musical qui est né aux États-Unis, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est né à la Nouvelle-Orléans, il y a au début du XXe siècle. Et après, c'est issu de musique venant d'Afrique, et venant un peu de partout, de rencontres, des choses comme ça. Mais effectivement, le lieu, c'est la Nouvelle-Orléans, c'est né là. Et de cet endroit-là, des esclaves, quelque chose est sorti et qui a traversé le monde, qui nous touche encore. Donc c'est une musique de la libération. De cette envie de s'émanciper, de gagner la liberté. C'est la musique de la liberté, le jazz, où on fait de l'improvisation et aussi on fait de la mise en commun. Donc c'est cet assemblage d'expression de soi-même et puis de la nécessité d'être en groupe qui fait que le jazz a pu traverser la planète, dialoguer avec tout le monde en fait, mm-hmm. puisque c'est ça qui est assez magique et magnifique dans cette musique, c'est qu'elle a vraiment dialogué avec l'ensemble des répertoires, des instruments, des sonorités, des timbres, des chants, de tout ce qui fait la musique à travers le monde. Cette immense diversité musicale du monde a pu dialoguer avec le jazz et donner cette idée maintenant qu'on s'est un peu approprié, mais qui s'appelle ce jazz des 5 continents, mais qui est une musique très active et qui vraiment prend beaucoup de place maintenant dans le monde, qu'on n'écoute pas dans les grands médias, mais qui par contre au niveau du live, au niveau de la puissance que ça dégage dans les clubs, dans les groupes, c'est assez fantastique. Et donc nous on est un peu cet endroit dans lequel on revit chaque année cette ferveur là, du jazz, avec beaucoup beaucoup de jeunes musiciennes et musiciens qui pratiquent maintenant le jazz, mais ce jazz qui dialogue et qui est ouvert.
Ouais, donc le jazz comme langue universelle, puisque cinq continents, bah, c'est notre monde. Et c'est le ça. Jazz, on peut mettre un Éthiopien avec un Américain et un Vietnamien, ils peuvent parler au travers du jazz.
Exactement, exactement. Et c'est pour ça que moi j'ai l'habitude de dire, mais on m'a souvent repris là-dessus, mais je le crois, c'est que le jazz peut sauver le monde dans cette capacité qu'il a justement à laisser la place à l'expression de chacun et chacune et chacun, et en même temps à la compréhension de la nécessité de l'autre. Comment on écoute l'autre, comment on dialogue, comment on répond, et pour essayer de faire de l'harmonie, parfois du chaos, de la friction. Le jazz, pour ça, parfois, on se trompe, on dit « Ah, le jazz, c'est une musique, on l'écoute pas bien », parce que mais il y a des moments de friction, il y a des moments de et à chaque fois, ça crée quelque chose de l'ensemble, quoi, parce que le monde n'est pas toujours lisse non plus, hein, faut pas se raconter des histoires, mais sachons, dans ce monde et dans le temps qui nous est donné de l'habiter, d'être ensemble et de dialoguer et de dire des choses, voilà. Donc c'est ce qu'on essaye de promouvoir chez nous.
Ouais, donc un festival de passionnés et qui rend donc le jazz passionnant. Est-ce que, Hugues, on peut parler un peu de l'évolution de ce festival? Parce que j'imagine qu'en 26 ans, ce festival qui garde ses valeurs, hein, puisqu'on va en parler ensuite, il a évolué. Qu'est-ce qui s'est passé en 26 ans là?
Bon, je crois que le festival, comme il est, mis à part cette ligne artistique très forte qui a été initiée dès le début par les fondateurs du festival et qui est toujours à l'œuvre maintenant, que je viens de décrire et de décliner un petit peu, le festival ne ressemble absolument plus à ce qu'il a été. Ouais, on était 5 jours dans un mode comme ça, assez bucolique de ce parc-là. Maintenant, pour des raisons inhérentes à l'évolution du monde, hein, et à la consommation aussi, la culture, à l'évolution de la ville de Marseille, à l'évolution des pratiques, enfin de tout ce qui fait que un festival maintenant de musique a une forme complètement différente. Et puis au départ, et c'est ça la plus grande des transformations, c'est-à-dire que le festival était axé sur la diffusion, on faisait juste la diffusion d'artistes qu'on accueillait et qu'on présentait. Maintenant, on s'est vraiment ancré sur le territoire en tant qu'acteur culturel. Donc, on a développé des partenariats avec d'autres disciplines artistiques, avec d'autres acteurs culturels de la ville, théâtre, cinéma, de la danse, des choses. Et puis, au-delà de ça, les écoles, toute l'éducation artistique et culturelle, donc dans les écoles, dans les centres sociaux, et dans les hôpitaux. Enfin, on a vraiment travaillé ça, l'ancrage de notre festival dans le territoire, et puis même au-delà, puisqu'on est allé, grâce à la métropole Aix-Marseille-Provence, dans les communes de la métropole. On a donc développé ce parcours métropolitain qui, chaque année, en juin et en novembre, parcourt le territoire. On a aussi inscrit le festival dans une dimension internationale. On travaille avec les États-Unis, on travaille avec l'Afrique, on travaille avec l'Europe. On est dans un énorme et magnifique réseau européen d'opérateurs culturels et spécifiés dans le jazz. Donc on a une dimension qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était au début. Voilà. Et là, on est une équipe, on travaille à l'année dessus. C'est un festival qui utilise tous les codes du monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, le numérique, et puis voilà, les rapports avec les artistes ont changé aussi, l'économie, tout a changé en fait. Et nous, notre capacité et la force qu'on peut développer, c'est de savoir s'adapter à ça, à comprendre les mouvements du monde. On est une vitrine du monde, donc on n'est pas sans accrocs. Parfois, le monde est chaotique et on en subit les conséquences. On s'est arrêté en 2020, bien sûr, et à chaque fois, on a eu l'histoire des attentats, des choses de sécurité. Enfin, tout ce qui fait la vie d'un festival. Mais c'est normal, puisqu'on on est le reflet de la vie de la société. Donc forcément, on est des éponges, forcément. Mais ça nous développe une capacité d'adaptation très forte qui permet justement d'avancer et puis de refléter ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Voilà.
En tout cas, on espère que ça puisse continuer, ou en tout cas de refléter le meilleur de ce monde. Justement, je voulais parler de ces valeurs du festival qui sont authenticité, audace et énergie. Vous essayez de les incarner de quelle manière aujourd'hui ?
Alors, bon, voilà, quand on parle de valeurs, c'est des mots, et c'est effectivement dans les actes que ça se voit. Donc l'authenticité, c'est le rapport qu'on a à la fois avec les artistes et à la fois avec le public. Notre force à nous, c'est de concevoir cette rencontre, puisque c'est ça l'objectif du festival, c'est la rencontre entre les artistes, leur message créatif, leur intuition, intention et inspiration, et puis l'écoute, comment une audience perçoit, voilà, c'est cet échange-là qu'on donc là on essaye d'être le plus authentique possible, dans le sens de dire que on n'a pas d'autre objectif que cette force-là, on n'a pas d'objectif de vous vendre quelque chose, ni de vous prendre votre argent, ni de... Voilà. Il n'y a pas ces objectifs cachés, ou même de développement d'idéologie, ou de choses... Bon, voilà. Là, c'est l'espace de la liberté où les artistes peuvent rencontrer... Voilà, l'audace, parce que, bien sûr, l'audace, dans un monde dans lequel on est, c'est notre force, la capacité d'avoir les oreilles en permanence ouvertes, les regards, pour savoir un peu par où ça arrive, et pour pas se laisser enfermer, justement, dans quelque chose. Et c'est ce qu'on offre à notre audience, c'est cette capacité qu'on a de nos écoutes pour dire, ben voilà, on a repéré ça, venez nous voir, vous allez pouvoir aussi vous mettre en connexion avec ces messages qui sont dans le monde. Puis l'autre, c'était quoi, l'autre valeur que j'avais dit ?
C'était l'énergie.
Oui, oh, l'énergie. Bon, bah, alors ça, il n'y a même pas besoin d'en parler. Ouais, il en faut. Et mais surtout, oui, c'est l'énergie qui se dégage de cette rencontre. C'est unique quand on assiste à un festival. C'est ça le plus grand plaisir de l'équipe, parce qu'on est une équipe, hein, bien sûr, qui gérons cette organisation et cette...
Programmation.
Oui, c'est un projet. Enfin, à chaque fois, c'est comme une culture, en fait. Donc, effectivement, cette énergie-là, elle est unique à la rencontre. C'est-à-dire que quand quelqu'un, que ce soit les artistes, même les équipes, mais les artistes ou l'audience, quand on rentre dans un concert, oh ben, on n'est jamais pareil quand on sort. Voilà. Mmh. C'est très, très différent. Et on rentre avec ses problèmes, ses questions, ses envies. Voilà. Et on sort, on a une autre enveloppe d'énergie, je dirais, quoi, qu'on a partagé avec les gens autour, qu'on a partagé avec la scène. Et les musiciens, les artistes nous ont ouvert d'autres voies. Et puis, la force que ça a, c'est que le public et sa présence et son retour, et c'est ça le jazz, c'est renvoie à l'artiste, ça. Donc il n'a pas des écouteurs fermés dans le truc, il est en contact direct avec ça. Donc c'est-à-dire que son expression, et sur le moment, sur l'instantané, et là il peut sortir des choses parfois toujours belles, mais des choses parfois qui sont vraiment exceptionnelles, géniales, et qu'on en ressort transformé, quoi. Mmh. Comme on peut avoir vu un but de Zinedine Zidane, voilà, on s'est fait chier pendant une heure et demie, et puis d'un coup, paf, un éclair, et ça, on s'en souvient toute sa vie. Le jazz permet cette force-là, par la musique et par l'âme et la poésie, je dirais, mais c'est des gros mots, mais la poésie des artistes.
Alors justement, ce festival, on a parlé, hein, c'est des lieux aussi iconiques dans toute la ville de Marseille, et même en dehors, de ce que j'ai compris, avec donc la Friche de la Belle de Mai, le conservatoire Pierre Barbizet, la Vieille Charité, le Parc Longchamp, mais cette année, donc, il y a un nouveau lieu qui s'ouvre au Festival de Jazz des 100 Continents.
Oui, on a aussi cette conscience de l'environnement dans lequel on est. Bon, on a une chance énorme à Marseille, hein, parce que ça regorge de lieux. On a travaillé aussi au Mucem, à l'Abbaye Saint-Victor, on a fait des concerts au Parc de la Sucrière, on a fait plein de choses partout, hein, sur le Vieux-Port, bien sûr, et devant la place de l'Opéra. Mais le cœur de notre histoire, c'est quand même les parcs et le sentiment d'être dans la nature, et le lien justement entre la nature et la musique, c'est ce qui nous anime. Et c'est là-dedans qu'on pense qu'on a une voix, et voilà, de cette rencontre, cette audace et cette authenticité dont on parlait tout à l'heure. Mais, et donc cette année, effectivement, suite à notre déménagement du parc Longchamp, on a la chance de pouvoir être accueilli dans un nouveau parc qui s'appelle le parc Henri Farm, qui est au milieu de la ville, hein, proche de l'Uvaune, à côté de... Et c'est le parc où il y a le Ballet National de Marseille, l'école de danse, donc c'est un lieu culturel déjà très identifié, avec des gens avec qui on a beaucoup de proximité, entre la danse contemporaine, la horde, c'est pareil, une énergie, une audace incroyable, donc on a énormément de choses à se dire. Et puis donc voilà, un lieu qui est assez méconnu à Marseille, et qu'on va essayer de faire découvrir, donc pour créer cette nouvelle identité du festival et cette relation particulière qu'on ressent quand on est dans la nature et qu'on est en lien avec de la musique organique.
Donc une expérience de la nature et de la musique dans un moment.
C'est ça.
Ce public vous a, qui vient voir le jazz des cinq continents, moi voilà, je sais que j'ai un beau-père qui est passionné de jazz, qui m'a amené à voir quelques événements. J'ai quelques amis de mon âge qui sont passionnés, mais c'est vrai que je vois que c'est un public un peu plus âgé. Est-ce que le jazz, il reste ouvert aux nouvelles générations, ou est-ce que justement c'est quelque chose, c'est un nouveau type de public qui est en train d'arriver ou pas? Parce que...
Alors, comment dire? Non, mais il y a énormément de clichés sur le jazz.
Oui, bien sûr.
Le jazz, musique élitiste, le jazz, musique pour les vieux. Donc c'est les clichés. Il y a toujours une part de vérité à l'intérieur de ça. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué il y a quelques années, quand on voyait le festival, c'est qu'effectivement, dans les salles où on allait écouter, il y avait énormément de jeunes musiciennes et musiciens qui arrivaient avec une énergie, une volonté de... et qui jouaient devant des gens un peu comme moi, hein, cheveux gris ou non. on ne voit pas la radio, heureusement. C'est ça. Et qui regardaient, on se dit, oh, c'est merveilleux, tout ça, c'est super, ils jouent bien. Mais où était la rencontre de génération entre ces jeunes musiciennes et musiciens et la jeunesse? Parce qu'ils jouaient pour eux, quoi, en fait. Donc, on a quand même eu cette réflexion d'élargir le plus possible l'ouverture de nos salles, de nos lieux. Mais bon, il faut que les jeunes, c'est pas parce qu'on dit tiens voilà c'est génial venez, ça existait déjà. Donc il faut que cette rencontre s'opère. Il faut que les valeurs justement qu'on transmet, on les touche. Et puis surtout, on s'aperçoit que la jeune génération communique beaucoup à travers un certain nombre de réseaux et de liens et de choses comme ça qui font un peu les tendances. Et il faut arriver à rentrer là-dedans et à faire comprendre que la musique, c'est pas simplement... voilà, parce que l'espace du jazz, il est quand même très léger dans tous les réseaux de diffusion économique, comme c'est pas une musique basée sur l'économie, mais sur l'humanité. Donc voilà, il faut aller chercher ça. Et je pense qu'on a... D'abord, il y a besoin de ça. Il y a toute une nouvelle génération qui cherche justement des nouvelles valeurs, nouvelles façons de vivre, qui en a marre d'être exploité au sens réel du terme, mais aussi culturellement, d'être amené dans des endroits, voilà, et qui recherche sa propre voie, donc qui rencontre à travers le jazz, une fois qu'ils ont découvert le chemin de l'émancipation, hein, on revient à cette idée de la liberté à l'époque, il y avait d'autres contextes, mais on est un peu quand même là-dedans, donc d'aller chercher ces espaces dans lesquels ils vont pouvoir trouver des choses qui sont et qui nourrissent leurs propres attentes, leurs propres envies. Voilà. Donc la rencontre est en train de s'opérer, et aussi grâce à cette mixité des musiques, des mondes. Enfin, le monde d'aujourd'hui aussi permet de circuler beaucoup, et donc du coup d'entendre des choses comme ça. Mais voilà, il y a une scène en Angleterre qui est née, qui a vraiment fait exploser un peu les capsules il y a une 10-15 ans, on va dire. Et donc là, ça a rejailli sur l'ensemble du spectre du jazz partout en Europe. Et puis maintenant, la France est quand même un des pays majeurs de ce développement de jazz avec la jeunesse, quoi, où les jeunes musiciennes et musiciens, c'est ça qu'il faut dire, musiciennes et musiciens, parce que c'est ce qu'on remarque aussi. Il y a une créativité incroyable, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, des choses à exprimer et d'intentions qui se développent. Donc cette scène-là est à même mettre à mal cette idée que le jazz est réservé à une élite. C'est pas vrai, le jazz c'est une musique populaire, elle est faite pour danser, pour jouer. Voilà, donc il y a aussi une part savante et une part qui existe aussi, on ne le nie pas, mais tant mieux, parce que le spectre est complètement ouvert. Nous, au Jazz des Cinq Continents, on est sur la base d'un jazz qui justement couvre l'ensemble du spectre. On va pouvoir, à la Vieille Charité, écouter des choses un peu plus justement dans l'écoute, où il va se passer des choses à des niveaux comme ça, d'écoute, d'excellence, qu'on aime beaucoup, et de créativité de ce type-là. Et puis, au Parc Henri Femme, ça sera beaucoup la fête, la danse, de funk, enfin toutes ces musiques connexes aussi qui sont cousines, je crois, du jazz, mais dans lequel le jazz est beaucoup entré dedans. Et puis cette année, on a quand même cette merveilleuse occasion de célébrer Miles Davis, qui est l'artiste ouais. qui a justement, lui, le premier, c'est pour ça qu'on se place sous son égide un peu, ouvert le jazz aux musiques actuelles, et il a parcouru en permanence, vous regardez sa carrière depuis le début, toutes les évolutions de cette musique et les tendances qui sont infiltrées. Il a été le premier à sentir, à faire jouer d'autres gens, des gens qui venaient d'Europe justement pour créer la fusion, le mouvement hippie, le rock, tout ça dans le jazz, hein. Et puis là, jusqu'aux musiques urbaines, à la fin de sa vie, quoi. Mais voilà, donc cet artiste-là est l'exemple même de ce qu'on veut, et cette année, c'est le centenaire de sa naissance, donc on a dans la programmation l'ouverture du festival qui se fait le 1er juillet avec un énorme projet autour de Sketches of Spain, qui est un des disques les plus vendus dans le monde de 1960, mais qui montre déjà l'ouverture de Miles à la musique, puisqu'il est sur l'Espagne, c'est comme son nom l'indique. Et puis on finira avec Marcus Miller, qui rend hommage à Miles Davis. Marcus Miller était le directeur musical de Miles Davis dans la fin de sa carrière, et qui vient avec l'orchestre des années 80-90, quoi, avec Bill Evans saxophone, Mike Stern à la guitare, Mino Cinelli percussion, enfin, et puis tout, donc Marcus Miller bien sûr à la basse, et puis tout le groupe, quoi, pour célébrer les deux périodes de Miles Davis, les années 60 et les années 80-90. Voilà, donc ce sera un parcours d'exception.
Bah oui, puis c'est un hommage, donc comme tu l'as dit, à Miles Davis. Et il faut le rappeler, le dire aux auditeurs, auditrices, le jazz, moi je pense que ça se vit en live. Il faut le découvrir en live pour l'apprécier, parce que personnellement, j'y touchais rien du tout au jazz, et j'avais tendance à trouver, justement, comme tous les gens qui écoutent de loin, de me dire, bon, c'est peut-être pas de la musique pour moi, c'est quelque chose d'assez ancien, etc. Et quand je suis allé le découvrir en live, là, pour le coup, ça met des vrais claques, et on se rend compte que c'est une musique complètement vivante, justement, mais très organique, qui peut bouger avec des moments d'envolée, où on se dit, wow, ils sont en train de partir sur une autre planète. Donc, il faut vivre le jazz en live, qu'on l'écoute ou pas, il faut aller le découvrir, et ensuite, après l'écouter dans ses écouteurs, mais d'abord le voir en vrai. Et c'est l'occasion, donc, avec ce festival des 5 continents, d'aller découvrir un genre musical qui est éternel. J'ai une question, UKFR, c'est sur cette programmation, est-ce que vous, personnellement, toi, est-ce que tu as des chouchous?
Non.
Non, tous pareils?
Oui.
Ah, ok, est-ce que tu leur mens comme si c'était des enfants, ou est-ce que c'est honnête et sincère?
Non, alors moi je mens jamais. non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des artistes, je suis très content de programmer cette année, mais enfin, bon, là, et je veux peut-être pas être un peu prétentieux, mais vous m'en voudrez pas. comme j'ai aucun talent de musique, je suis pas musicien moi-même.
Une oreille avant d'être.
Oui, et puis aussi une idée d'écriture. Voilà, c'est plutôt dans la composition de la programmation, c'est-à-dire si on regarde, et c'est là où je suis un peu prétentieux, mais aussi ambitieux, et où j'aimerais entraîner derrière moi, bon, l'équipe déjà qui est partie, mais au-delà de nous. C'est que justement le festival s'écrit, il se compose à partir de la première soirée jusqu'à la dernière, et donc c'est cet enchaînement des possibles, des émotions, des perceptions, des répertoires, et cette circulation là-dedans qui, donc dans l'écriture que j'en fais chaque année, correspond à l'état du monde, je dirais, d'une certaine manière. Waouh, la prétention, merci. mais c'est plutôt ça. Donc il n'y a pas une artiste, enfin, j'aime beaucoup tous les artistes qui sont programmés, mais ben, voilà. Après, il y a des choses que donc j'attends avec impatience. Ezra Collective, par exemple, c'est un groupe qui est, je parlais de la scène anglaise qui a explosé, donc c'est le typique, les superstars du monde d'aujourd'hui dans la musique et cette fameuse jeunesse dont on parlait, la capacité de fusionner le jazz avec les musiques d'aujourd'hui, quoi. Voilà, ça, donc Ezra Collective, c'est un groupe qu'on cherche depuis 3 ans à programmer à Marseille, qui n'est jamais venu à Marseille, donc effectivement ils sont là cette année et on est super heureux de les accueillir, voilà. Mais Voilà, ça tombe aussi bien que de voir l'Orchestre National de Jazz qui vient, bon, les concerts que je vous parlais autour de Maes, bien sûr, mais l'Orchestre National de Jazz est un orchestre qu'on n'a jamais accueilli au Festival Jazz des 5 continents. Pourtant, c'est quand même le summum de la qualité des instrumentistes, des compositions, des arrangements sur le jazz. Donc, il rend un hommage à Carla Bley cette année. Et puis, il y a aussi le Sun Ra Orchestra. Voilà. Et puis il y a des découvertes. Alors là, je rigole parce qu'à chaque fois, les artistes qu'on découvre, moi je parcours le monde pour écouter et puis ramener des sensations comme ça. Le samedi, il y a trois artistes là qui sont Leila Olivesi, qui est une jeune pianiste franco-mauritanienne, mais voilà, elle est en France, elle a déjà été largement récompensée, prix Django Reinhardt et tout. Elle est assez connue dans l'autre, mais on la découvre. Et puis deux musiciennes qu'on connaît pas très bien en France. Il y a une jeune brésilienne qui a mis le jazz au milieu de son R&B et musique brésilienne, la Xenia Francia. C'est une des premières fois qu'elle vient en France et qui va déménager. On l'a fait découvrir. Alors là, comme bien sûr elle n'est pas encore connue en France, les gens se demandent que c'est. Mais venez, vous avez toutes les chances de repartir conquis. Et la soirée se terminera avec une trompettiste incroyable qui est une des stars en Colombie, et pourtant elle est hollandaise. Elle est hollandaise et elle joue de la salsa, la cumbia et les choses au top, mais vraiment pas simplement. Elle est partie là-bas, elle a appris, elle est devenue artiste de l'année même en Colombie. Voilà. Donc, elle s'appelle Meite Ontele. Donc voilà. Et Leila Olivesi, Zena Francia et Meite Ontele, c'est une soirée, personne ne connaît les gens, et pourtant vous allez passer la meilleure soirée de votre vie et de votre festival 2026.
Ah bah voilà, j'exagère un peu. Donc UKFR, même si vous dites que vous n'avez pas de chouchou, je sens qu'il y a quand même certains artistes qui résonnent fort. Pour l'accessibilité, pour le prix, c'est combien le festival des...
Alors ça aussi c'est très important pour nous. On a voulu préserver la capacité de toutes et tous de venir au festival. On est aidé pour ça par les institutions. Mm-hmm. C'est parce qu'on a de l'argent public de la ville de Marseille, du département, de la région, de la métropole, qu'on peut faire ça. Et du coup, les tarifs sont à 35 euros, 40 euros. Il y a un concert de Maes à 45, mais voilà. Et en tout cas, il y a donc c'est des tarifs qui sont, enfin, quand on regarde le prix des concerts,
dans
ça n'a rien à voir.
Des concerts de jazz, c'est très
on a trois concerts par soir, et puis il y a énormément de dispositifs billets solidaires pour les gens qui sont éloignés de la culture, qui permettent d'aller voir des concerts à 1 euro. Par le dispositif des associations et de la prise en charge aussi par les mairies de secteur à Marseille. Et puis après, tous les tarifs étudiants, tarifs jeunes, ces choses-là qui permettent de voir des concerts de niveau mondial, avec des artistes qui sont de très grande qualité, trois concerts par soir, deux ou trois concerts par soir selon où on est. Mais voilà, des tarifs qui sont tout à fait accessibles encore, même si c'est toujours trop cher pour les gens qui malheureusement ont des difficultés à vivre, et il y en a beaucoup par les temps qui courent.
Ouais, mais ça reste donc pour le milieu du jazz et pour les pointures qu'on peut découvrir dans ce festival, un tarif accessible, on va dire. On est conscient bien sûr des difficultés de tout un chacun, surtout à Marseille. UKFR, c'était un plaisir de vous recevoir donc pour ce festival du jazz des 5 continents qui se déroule, je le rappelle, du 1er au 12 juillet 2026. On peut retrouver l'ensemble de la programmation sur le site internet du jazz.
Marseillejazz.com.
Marseillejazz.com, voilà. On peut prendre ses billets parce que j'imagine qu'il faut réserver quand même ses billets pour avoir sa place. Et on se retrouve sous les étoiles et sous le soleil pour fêter le jazz.
Merci beaucoup.
Merci de votre présence.
Et bienvenue en tout cas dans tous les lieux du Marseille Jazz des 5 continents.
Avec grand plaisir, on s'y retrouvera. Excellente journée à toutes et tous sur Fréquence Mistral ou ailleurs.